Eh bien, nous allons voir, amis, frères et sœurs en Christ, pourquoi Dieu a procédé au changement de l'Alliance. Vous savez très bien qu'à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël. Moïse et Aaron, son frère, ont été désignés par Dieu pour diriger le sacerdoce de l'Alliance, pour conduire le peuple. Dieu a pris souverainement la décision de changer l'Alliance. C'est la raison de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il y avait une raison qui a poussé Dieu à prendre cette mesure. Par cet enseignement, frères et sœurs, amis, nous serons éclairés sur les raisons évoquées par Dieu lui-même à établir son propre Fils pour conduire la nouvelle alliance. Il est bon de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous dit Jean 8, 32. Car sans la vérité, il est impossible de glorifier Dieu selon sa volonté. Matthieu 15, 6 à 9 nous dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, pourquoi plaire aux hommes et non être agréable à Dieu en pratiquant ces choses ? Souvenez-vous, Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Par cet enseignement, nous éviterons de commettre les erreurs que les anciens de la première alliance ont commises, les erreurs qui ont poussé Dieu à changer l'alliance en établissant son propre Fils. Hébreux 8, 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Vous êtes invités aussi à bien noter les références des Écritures saintes données comme appui dans cet enseignement. Donc, il vous faut une Bible. Notre rôle en tant qu'enseignant n'est pas d'offenser quelqu'un ou de condamner, mais d'enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la vérité et justice. Dans 2 Timothée 3, 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et dans 1 Jean 4, verset 6, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Voilà. Alors soyons attentifs et écoutons bien cet enseignement. Que le Seigneur vous aide. Rappelez-vous Luc 10, verset 16. « Celui qui vous écoute m'écoute. » Et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ensemble, frères et sœurs, amis en Christ, partageons cet enseignement. Le titre donné est « Pourquoi Dieu a changé la première alliance ?» Donc ouvrons les Écritures saintes et regardons dans Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. » non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Regardons dans Hébreux chapitre 8, versets 7 à 9, et ensuite verset 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Et dans le verset 13, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Pourquoi Dieu a changé son alliance avec le peuple d'Israël ? Alliance dirigée par le sacerdoce lévitique, dont Moïse, le médiateur représentant de Dieu, et Aaron, son frère, comme souverain sacrificateur représentant le peuple d'Israël. Regardons dans Exode 3, versets 9 à 10. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et dans Exode 4, versets 10 à 17, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Toute la loi et ses ordonnances, ainsi que l'organisation de cette alliance ont été données par le médiateur Moïse et mises en exécution par le souverain sacrificateur Aaron. Le sacerdoce, qui est le directoire de l'alliance, portait l'appellation de sacerdoce lévitique, car les deux porteurs de ce sacerdoce étaient tous les deux les enfants de la maison de Lévi, un des enfants d'Israël. C'est pour cela tous ceux qui servaient dans le temple étaient les descendants de Lévi. C'est pour cela qu'on les appelle des Lévites. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu change cette alliance et établisse une autre alliance et désigne un autre directoire, donc sacerdoce, pour établir une autre loi et ses ordonnances ainsi qu'une autre organisation de l'alliance? La raison est bien simple, car Dieu l'a dit ouvertement. Les dignitaires de cette alliance, les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites, se sont érigés en véritables maîtres sur le peuple d'Israël. Ils étaient devenus des seigneurs. D'ailleurs, si on regarde bien, les souverains sacrificateurs étaient des barons, des richards, comme diront certains. C'est le peuple d'Israël qui travaillait et devait apporter le 10% de leurs revenus aux souverains sacrificateurs. Sans oublier les offrandes. Les Lévites étaient des véritables fainéants, entretenus par le peuple d'Israël. Quel changement avec leur séjour en Égypte ? Seulement, les souverains sacrificateurs et les Lévites se cachent sous une formule que nous connaissons : c'est pour Dieu. Nous allons voir ce que déclare Dieu et pourquoi il a rompu cette alliance et en a établi une nouvelle. Ézéchiel 34, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. » Ah ! D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans les assemblées dites chrétiennes. Les bergers, au lieu de prendre soin des brebis du Seigneur, ils les dominent, leur impose des offrandes, des dîmes, comme faisaient les souverains sacrificateurs, les Lévites de la première alliance, dirigés par le sacerdoce lévitique. Et quand on les interpelle, ils réagissent de la même manière que les souverains sacrificateurs ont réagi vis-à-vis de Jésus-Christ, le nouveau médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Malgré ces passages des Écritures saintes qui confirme cette condamnation de cette loi et ses ordonnances, et malgré l'organisation par Jésus-Christ, ces bergers restent sourds et aveugles. Regardons dans Colossiens 2, versets 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Prenons Hébreux 10:10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Par amour d'argent, comme les Lévites, ils maintiennent les enfants de Dieu en otage, loin de la vérité. Dans certaines dénominations, le croyant chrétien n'a pas droit à la parole. Il est là pour obéir tout simplement à tout ce que le chef d'une assemblée lui commande. Pour ces chefs, la prédication reste monologue. Dieu dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Aujourd'hui, beaucoup de croyants chrétiens ne savent pas et ne connaissent pas ce que c'est qu'un sacerdoce. Tout simplement parce que les dirigeants ne leur enseignent pas cela. Parce que si les croyants chrétiens savent de quel sacerdoce ils sont régis, ils ne se laisseront plus berner par les prédicateurs. Amis, frères, prédicateurs en Christ, enseignez aux enfants de Dieu la vérité pour qu'ils soient éclairés. Dieu ne change pas sa nature sainte et éternelle. Il était, il est, il sera pour toujours. Mais Dieu est souverain. Dieu est libre de faire ce qu'il trouve bon. Dieu a établi son Fils Jésus-Christ, médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est l'unique chef du directoire de cette alliance. Il établit la nouvelle loi et les nouvelles ordonnances, ainsi que toute l'organisation de la dite alliance. Prenons Hébreux 7, versets 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Et prenons plus bas le verset 21 et 22. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et Hébreux 8, verset 6 « Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » Et dans 1 Timothée 2, versets 5-6, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Et maintenant passons à Galates 3, versets 23 à 27. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et dans Matthieu 22, versets 36 à 39, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans 1 Jean 4, versets 20 à 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et dans Jean 15, 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Frères, amis et sœurs en Christ, l'alliance a changé. Le sacerdoce, qui est le directoire de l'alliance, a changé. La loi et les ordonnances ont changé. Le culte, c'est-à-dire l'organisation de toute l'alliance, a changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique de la première alliance, dirigé par Moïse et Aaron son frère. Nous sommes dans le sacerdoce royal, sacerdoce de Melchisédek, de la nouvelle alliance dirigée par Jésus-Christ, le nouveau médiateur et souverain. Alors, vivons la nouvelle loi et ses ordonnances. Rendons le nouveau culte ordonné par le sacerdoce royal. Accomplissons la nouvelle loi royale du médiateur de la nouvelle alliance. Prenons Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mettons en pratique la parole de Dieu. Prenons Jacques 1. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Prenons le verset aussi 25 et après 27. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ne te pose pas de questions. Abandonne le mal et continue à faire le bien. Prenons Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et Matthieu 7, 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Prenons 1 Pierre 1, 15, 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Vous avez reçu l'enseignement sur la règle d'or de cette loi royale. Prenons Matthieu 17:5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et Jean 14:6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La loi et ses ordonnances ne sauvent pas. » Galates 2, versets 20-21. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Voilà, frères, amis et sœurs en Christ, et il faudrait quand même conclure avec la parole de Dieu, donc dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et nous allons terminer avec 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde. Gloire à Dieu.